La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiée. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario S. Visitez leur site web librairiez.com. Bienvenue à La vie secrète des geekettes, un podcast geek au féminin avec Fanny et
Isabelle.
La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est une émission divertissante et diversifiée animée par des geekettes, nous autres. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Isabelle Melançon. Allô!
Bonjour!
Ça va bien?
Oui!
Ouais, c'est une belle journée aujourd'hui, n'est-ce pas?
Ouais, non, c'était vraiment bien. Il faisait un peu frais, mais je veux dire, c'est une bonne journée pour se balader.
Ouais. Hey, Isabelle, c'est la première fois que tu viens enregistrer un épisode des geekettes ici chez moi!
C'est vrai?
Oui!
C'est la première fois que je viens, par exemple.
Non, c'est ça. C'est... Moi et Isabelle, on se connaît depuis quand même assez longtemps. Mm-hmm. Depuis environ 2010, qu'on disait tantôt.
Ouais, à peu près 8 ans.
On s'est rencontrés à la librairie Monet.
Ouais. Que c'était... C'est drôle, parce que quand j'étais à la librairie Monet, c'était un emploi que j'avais pris parce que j'étais tannée de travailler en administration.
Puis tu faisais quoi déjà à la librairie Monet?
J'étais responsable du département de BD. En fait, j'étais une des responsables. Mm-hmm. En dessous du responsable top, là. Mm-hmm. Fait ça, je m'occupais des bandes dessinées principalement, là. Je suggérais des affaires où...
C'est quand même une job cool. Moi, j'avais appliqué, je pense, pour ton poste, là. Puis je l'avais pas eu, parce que non, c'est ça. J'avais dit, bon, ben, je l'ai dit du Michel Rabagliati, puis c'est pas mal ça. Puis en fait, je pense que tu connais pas assez de choses, cette fille.
Ouais, ben moi, c'est drôle, parce que il m'avait carrément donné le poste, parce que, étant donné que la librairie était très loin... Mm. J'avais emmené des mangas à lire pour le métro. Alors, à la fin de l'entrevue, j'avais sorti le manga que j'étais en lire, que c'était un manga qui s'appelle Bride Stories, qui a reçu beaucoup, beaucoup de prix maintenant. Donc, je lisais la version anglaise qui avait sorti très récemment, et la version française s'en venait le même mois. Enfin, je leur ai dit « Hey, j'ai lu ça maintenant, là. Vous, ça va sortir en français dans pas long, là. Faites gaffe, là, c'est vraiment bien, vous devez vous assurer d'avoir des tomes, parce que c'est génial. » Mm-hmm. Puis apparemment, c'est ça qu'il avait vendu.
Ah oui! Ta candidature, là.
C'est ouais. Ça, le fait que j'avais ponctué l'entrevue avec une suggestion, ça a comme fait « Elle a la librairie dans le sang
». Ben, c'est cool quand même. Moi, ça me rappelle toutes sortes de souvenirs, là. On pourrait parler longtemps de ça.
Ouais.
Mais on a quand même un commanditaire qui c'est la librairie Z et non pas la librairie Monet.
Malheureusement.
Fait qu'on en parlera pas trop. Mais c'est correct. Écoutez, la librairie Monet, c'est bien correct. Allez-y, ça vous tente. Mais nous ouais. Autres, on préfère vachement plus la librairie Z.
C'est ça. Allez acheter des livres en librairie, des petites librairies,
oui.
Principalement. Oui. Achetez pas chez Amazon. Ouais. Ils sont diaboliquement trop gros et un peu machiavéliques.
Ben, c'est pour ça qu'on a un partenariat avec la librairie Z aussi. C'est qu'on voulait justement encourager des gens d'ici, là, qui sont dans Hochelaga, Montréal. Puis c'est ça que, pour ça, nous autres, on était tannés d'acheter nos livres là, sur Amazon. Donc, ouais. on les achète là-bas. Ils sont bien gentils.
Mais en fait, la librairie Z, ça fait longtemps que je voulais y aller, mais je suis jamais dans le coin d'Hochelaga. Mais je trouve que ça a l'air d'une vraiment très bien librairie.
Écoute, on ira ensemble à un moment donné. C'est très bien. Ouais. hey, aujourd'hui, on va avoir, juste pour dire aux auditeurs, on va avoir notre segment régulier de La Switch et ta bitch. Mm-hmm. On va aussi avoir notre courrier du cœur. Et puis, on va aussi avoir, bon, évidemment, chacune de nos chroniques. Moi, je vais parler du nouveau film Jurassic World Fallen Kingdom. J'ai été voir ça hier. Toi, tu vas parler de quoi, Isabelle?
Ben moi, je vais parler, je pense, un peu de mon travail en tant qu'artiste et gestionnaire dans le monde du webcomic, que c'est un peu l'évolution naturelle de la bande dessinée underground. Donc, parler un petit peu de ça, de l'univers qui est dedans, de ce que je fais... de la présence de la femme dans cet univers-là, ce genre de choses.
Ouais, et ce petit genre de choses-là...
C'est des détails!
Mais ça va être super intéressant parce que Isabelle, pour les gens qui ne te connaissent pas, elle connaît un bon paquet d'affaires là-dessus, donc je pense que ça va être un pas pire épisode. Alors pour l'instant, on va commencer avec notre Switch It A Bitch! La Switch It A Bitch! À la Switch It à Bitch, on va parler d'un sujet fort en... qu'on parle pas mal dernièrement de...
Un peu en vogue à Montréal, ouais. En général.
Oui, en ce moment, là, on est le 21 juin, je crois, je suis pas certaine, dans ce coin-là.
Soon.
Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait absolument dans le début juillet?
On déménage.
Ouais.
Enfin, il y a beaucoup de gens qui déménagent.
Toi, ça, t'as-tu déménagé souvent dans ta vie?
Oui. En fait, ce que je fais le plus, c'est que je fais des allers-retours Montréal-Ottawa. Parce que moi, dans le fond, je travaille comme pigiste. Maintenant, en fait, je travaille comme pigiste. Avant, je travaillais dans des grosses entreprises.
Donc, dans ton passé?
Dans mon passé. Mon passé tragique de héros battu. Non, mais c'est ça. Avant, je faisais souvent des petits déménagements pour faire des stages. Et puis, j'ai fait des gros déménagements Montréal-Ottawa, Montréal-Ottawa. Surtout pour suivre les emplois de mon chum. Puis aussi, lui avait déménagé à Toronto, puis moi, j'avais continué l'université. Puis je suis restée avec ce gars-là pendant 15 ans, fait qu'éventuellement, j'ai déménagé, tu sais, Montréal avec, Montréal ailleurs.
OK, t'as fait des gros déménagements, là, pas des « oh, je déménage à deux coins de rue d'ici », là.
Non,
dans
moi,
un
c'est
autre
tout
quartier,
temps...
là, c'est des villes.
C'est ça, moi, je reste quelque part 5 ans, puis après ça, je décide de tout, comme, arracher les racines, puis ailleurs, aller complètement ailleurs. Mm-hmm. Pendant un autre 5 ans, puis là, j'en reviens.
Ça fait combien de temps que t'es revenue à Montréal, déjà?
2 ans.
2 ans, c'est ça. T'étais partie comme combien de temps à Gatineau, je pense?
Presque 4 ans.
Quand même, hein? C'est ça, ça va vite, ça va
un
vite.
Un petit peu en dessous de 4 ans. Ouais. Puis, franchement, je suis contente d'être revenue à Montréal, parce que Gatineau, c'est plate.
Désolée pour nos auditeurs de Gatineau.
Ouais, ben je veux dire...
On vous aime, mais des fois, c'est toi qui dis, Isabelle, c'est plate.
Ouais. Quand t'as une petite famille, c'est génial. Gatineau, ouais. Pour les petites familles, c'est une ville super. Tu peux avoir des terrains, t'as des belles maisons, il y a plein d'activités organisées par la ville. Comme moi, quand j'étais enfant, j'en ai profité à mort. Je trouvais ça génial. Mais quand t'es genre plus un single ou un marié sans enfant, là, c'est un petit peu plus mort, malheureusement.
Mm-hmm. Puis mais... même quand t'as un copain ou une copine, mais tu veux juste sortir avec tes amis, là.
Ouais. Mais même sortir avec les amis, c'est parce que... Il n'y a pas de métro, c'est les bus tout le temps. Puis des fois, la ligne bleue, là, après 9h du soir, il n'y avait plus rien.
J'avoue que quand tu as, mettons, une voiture ou pas de voiture, je veux dire, t'es pas porté.
Il faut
à
que t'aies une voiture à Gatineau.
Mais tu vas pas boire nécessairement parce que tu conduis.
Parce que tu conduis, oui.
Fait que tu vas rentrer un petit peu plus tôt, peut-être. Ou t'as pas de tendance à faire le party tant que ça non plus.
Ben, c'est ça. Fait que c'est vraiment. Pour les familles, c'est génial. C'est une ville géniale pour ça. Ça, je dois l'avouer. Là. C'est... Tout le monde qui est parent à Gatineau adore ça, et puis je vois pourquoi.
C'est con, ouais, c'est...
Puis il y a aussi pas d'appartement, c'est juste pas une bonne ville si t'es pas un genre de famille.
C'est intéressant.
Fait que je suis vraiment contente d'être revenue ici, parce que c'est une ville un petit peu plus comme...
Qui bouge un petit peu plus.
Ça fait bien avec mon style de vie.
Bon, mais tant mieux. Puis les déménagements, c'est mettons là, c'est quoi qu'on aime le plus, puis qu'on haït le plus dans les déménagements?
Ben, je dirais...
Le début, c'est le fun.
Ouais, ben quand tu planifies, puis c'est genre, tu sais, c'est frais dans ton esprit, puis t'es comme, t'as choisi ton nouvel appartement, puis tu te dis, ah, tel meuble, ça va aller à telle place. C'est le fun.
Ouais, allez
chiquer. Pour comme les 10 premières boîtes. Comme ça, t'arrives à 12e, t'es comme, finalement, pourquoi j'ai tout ça? Je pense que je vais tout brûler.
C'est ça. Moi, quand t'es rendu à classer les crayons, puis les petites effaces, puis les petits cossins, là, t'es comme, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai... Moi, j'en revenais pas, comme, quand j'ai les deux derniers déménagements que j'ai eus, là, j'en revenais pas à quel point j'avais des cossins, puis j'ai jeté tellement d'affaires, mais tellement de choses, puis j'en ai tellement donné, parce que j'étais juste plus capable de traîner ces cochonneries-là d'appartement en appartement. J'ai fait... C'est ce que j'ai brûlé, là, pas brûlé, mais j'ai mis au recyclage, parce qu'on est en 2018, une tonne de cahiers de dessins, comme de vieux dessins que je tenais pas nécessairement. Là, c'était pas... Les plus beaux, je les ai gardés. J'ai fait « Ah, oh, c'est beau, je vais le garder. » Tu sais, je serais fière si quelqu'un trouvait ça, comme un
fait
jour.
Caché.
C'est ça, ouvrir mes dessins. C'est
cache comme
dans
Amélie Poulain.
Moi, c'est ça, mes futurs enfants ou les générations prochaines, peu importe.
Tu vois, mon enfant, grand-maman, là, quand elle avait 15 ans...
A dessiné.
A dessiné des animés.
Non, je dessinais pas ça des animés, moi. Je dessinais des Sonic. Des Sonic.
Je dessinais des Sonic. Ouais. Des Sonic qui embrassent Amy, là.
Ah non, Amy était pas arrivée encore. Elle était sur le Sega CD, fait que c'était pas vraiment accessible.
Pas encore
d'Amy. Moi, je veux faire un épisode des Geekettes sur Sonic, parce que je connais trop de choses sur Sonic.
Des Sonic qui embrassent Tails.
Oh non, j'étais pas dans ce genre-là. Moi, j'avais créé des Sonic filles, mais en tout cas, parce qu'il y a pas de personnage féminin, fait qu'on en reparlera.
Moi, je créais des Jedi filles.
Oh boy, on va peut-être parler de ça à un moment donné. OK, fait que le déménagement, on revient. Ouais. Fait que les affaires poches du déménagement,
c'est... Mais moi, c'est mon expérience avec le déménagement. C'est... Je l'ai fait plusieurs fois. Puis comme, je le faisais avec ma famille puis avec des amis. Puis à un moment donné, je me suis écœurée, puis j'ai juste engagé une compagnie.
Oui, à un moment donné, c'est ça. Au début, tu fais comme, oui, on va le faire ensemble, c'est cool. Puis non, sérieux, quand tu vieillis, t'es comme, fuck that.
Pensez un peu, t'as plus le gaz pour le faire, t'as trop d'affaires. Parce que moi, OK, je suis genre de personne, j'ai pas tant d'affaires que ça. Mes possessions se limitent à mon ordi, mes affaires de dessin, mes bandes dessinées, puis mon linge. Mm-hmm. J'ai presque rien d'autre. Le problème, c'est que j'ai 50 000 de toutes ces affaires-là.
Oui, c'est ça, j'allais dire.
Mon dernier déménagement...
J'ai été chez toi, moi, là.
Mon dernier déménagement, à un moment donné, j'avais 70 boîtes de livres, puis c'était pas fini. Fait que là, j'étais pas mal rendue à un niveau de comme, et si je brûlais tout?
Mais les livres, c'est la pire affaire. J'en parlais dans un ancien épisode de La vie secrète des geekettes avec Laurent Boutin. Lui, il a beaucoup, beaucoup, c'est un libraire, puis il y a beaucoup, beaucoup de livres aussi qui déménagent, puis c'est comme un enfer à chaque fois, là.
Alors, c'est terrible. Mais si tu genre à collectionner les livres, il faut que tu engages une compagnie, parce que je sais qu'il y a pas des gens qui disent comment on va sauver de l'argent, là. Mais.
Non.
Honnêtement, avec la location du camion, puis tout ça, là. Puis trouver quelqu'un qui peut le conduire, puis c'est pas tout le monde, c'est pas parce que t'as un permis de conduire que t'es capable de conduire un camion, probablement.
Non, c'est ça.
Mais honnêtement, quand j'ai engagé une compagnie de déménagement, pour un déménagement de ville en ville, parce que comme j'ai dit, moi, tous mes déménagements que j'ai faits, c'était des trucs énormes. Donc, Ottawa, Montréal, j'ai trouvé une compagnie que je trouvais sympa, c'était 4 gars, ça a coûté 1 000$. Camion compris, puis tout. Comme le gaz, les camions, je pense que
ça avait... T'as-tu eu à bouger des boîtes? C'est sûr, pour leur dire c'est où, là,
moi, mais... je n'ai bougé. Comme, ouais. On a quand même invité nos amis, puis on a quand même invité mes parents, puis j'ai quand même fait... Juste pour que tout le monde ait mis la main à la pâte, parce que les gens voulaient. Okay. Mais on n'était pas obligés.
OK. Ah, ils sont gentils.
Fait qu'on l'a fait pour que ça aille plus vite. Mm-hmm. Puis d'ailleurs, les déménageurs trouvaient ça sympa, parce qu'ils ont dit, ben ça, ça aurait été une job de 5 heures, mais avec tout le monde qui était venu, c'était une job de comme 1h30, là.
Ben, ça vous a coûté moins cher aussi, au final, là, parce qu'il y a moins de temps,
tu sais. Fait que tu peux inviter tes amis, puis t'arranger pour que t'aies comme la version indie du déménagement, mais comme passé un certain âge, il faut que tu t'absorbes ce coup-là. Surtout si tu fais du interville, parce que si tu fais d'un coin de rue à un coin de rue, tu peux y aller graduellement. Mm-hmm. Puis, je veux dire, ça, c'est aussi une bonne manière de le faire. Je dirais, les deux manières idéales de le faire, c'est ou bien tu le fais graduellement, c'est capable, tu peux faire, on t'engage une compagnie. Mm-hmm. Parce que le faire, passer la trentaine, là, faire style, j'ai invité mes amis, pour manger de la pizza, là.
Non.
Les gens peuvent vraiment se blesser. Les gens oublient
c'est
ça.
Exactement, ça, c'est ce que
j'allais
dire.
Tu peux vraiment te faire mal. Comme mon chum, là, lui, là, il avait... Quand il était plus jeune, il avait chopé une hernie de la manière la plus stupide qui soit en essayant de gagner un concours de limbo.
OK. En quelle année, ça?
Ça fait... Puis c'est vraiment... C'est vrai de vrai, là. Il a fallu qu'il se fasse opérer pour cette hernie-là, là.
C'est quand même drôle.
Puis genre, ça veut dire que, tu sais, s'il faisait trop d'efforts dans un déménagement, il aurait pu en avoir un autre. Je veux dire, passer un certain âge, c'est ça, t'engages des professionnels, parce que t'as pas le matériel, t'as pas... Les gens, ils pensent même pas à s'étirer avant. Mm-hmm. Comme moi, quand je le faisais, même en aidant les gars-là, là, mon père, là, ce qu'il avait fait, c'est parce qu'on déménageait beaucoup, mon père, il nous a offert des gants de déménagement, il nous a offert des
les
straps. Gants,
les straps pour le frigidaire, là.
Pour le frigidaire, toutes les affaires lourdes. Hein? Mm-hmm. Tu utilises les straps parce que là, c'est tes épaules, ton dos qui prend l'affaire, c'est pas tes... Parce que tu peux carrément te déboîter une épaule. Les gens, ils savent pas. Ça peut être vraiment... C'est pour ça que quand tu commences à avoir un certain montant d'affaires, quand tu commences vraiment à accumuler une vie d'adulte, là, paye quelqu'un.
Oh oui.
Ou bien, fais les graduels.
Mets l'argent de côté. Tu sais, les choses qu'il faut que tu fasses, là.
Ben, c'est ça. Puis, je veux dire, aussi, plus tu vieillis, moins tu déménages. Oui. Parce qu'à la base, tu essaies d'aller pour des appartements plus permanents. Tu vas peut-être éviter l'appartement qui coûte comme 400$ par mois, puis il y a des craques dans le mur, puis il y a des bruits bizarres, puis tu penses qu'il y a quelqu'un dans la cheminée, mais t'es pas sûr.
Ouais, c'est ça.
Tu vas éviter ces appartements, puis tu vas trouver quelque chose de plus permanent. Fait que, comme tu planifies ta vie, planifie de déménager ta vie, parce que c'est incroyable comment les gens peuvent se blesser. Ouais. En faisant ce genre de choses. C'est, y a pas des professionnels rien.
Moi, cette année, je me suis blessée dans le dos en prenant des boîtes. Pis c'est comme vraiment niaiseux, là. C'est genre, ça m'est jamais arrivé, là, mais c'est vrai qu'à un certain âge, ben oui, tu peux te blesser dans le dos, tu sais.
Puis aussi, ils pensent un peu...
Ça m'a pris comme 3 mois, là, m'en remettre, là. J'ai payé des traitements de physio pis tout, là.
Ben, tu sais, je pensais ça au dernier déménagement, parce que moi, je levais des boîtes essentiellement pour le fun, parce que j'avais payé des gars pour faire ça. Mm-hmm. Puis une boîte qui, à un moment donné, que je l'ai laissé tomber, puis c'était quand même plein de livres qui m'avaient presque tombé sur la main, là. Puis je pensais à ça, que si ça m'avait tombé sur la main, puis ça m'avait cassé un doigt, là, j'aurais été HS pour ma job pendant 6 semaines.
Ouais, puis il faut pas porter de sandales non plus.
Ah, ça, je le fais jamais, de toute façon.
Mais non, mais moi, je le fais, puis comme, quand je vois du monde qui font des jobs comme ça, puis qui portent des sandales, je suis comme, c'est une mauvaise idée, ça. Puis, j'ai
honnêtement, depuis quelques temps, là, comme, j'ai écouté un documentaire l'autre jour sur toutes les blessures que tu peux avoir sur ton pied en te déplaçant dans une ville, là, puis je porte plus de chaussures ouvertes.
C'est vrai.
Comme, je porte plus de sandales, je porte des tomes, c'est des affaires comme ça, tu sais, en canevas.
Dessus, là, ouais, ouais. Mm-hmm.
C'est du canevas solide, là. Mm-hmm. Mais des sandales en ville, là, je suis plus capable. Il y a trop d'affaires.
C'est vrai que t'as les pieds qui virent sales vite quand tu portes des sandales en ville. Je parle par expérience.
Ben, c'est pas juste que c'est, tu sais, il y a de la vite partout.
Ah oui.
Des roches, tu sais.
Toutes sortes de des itinérants. Je sais pas.
Ben non, quand même pas. Là. Ils vont pas te lécher les pieds.
C'est j'aime.
On se détend un peu. Ben, c'est ça. C'est en général, tu sais, passer un certain âge, tu déménages carrément de façon permanente. Fait que tu déménages vraiment une vie, tu sais. Tu peux plus. Si t'es jeune, tu peux quand même déménager comme 4-5 boîtes puis un sac à dos, ok, good. Tu sais, continue à le faire de même. Mais passer un certain âge, là, quand tu déménages, il faut que ça soit planifié comme n'importe quelle activité. Il y a un budget.
Soyez des adultes.
Tu sais, il y a un budget, il y a une planification, il y a un timeline.
C'est sérieux. Puis faites-vous un document Excel tout de suite, là. Maintenant.
Ouais, c'est ça. Parce que si tu prends pas au sérieux, il y a juste toi qui vas en partir. Puis je veux dire, je pensais aussi comme. Puis quand tu comptes sur les gens aussi, plus t'es vieux, plus ils se désistent. Parce que
il y a
d'autres activités où ben ils peuvent pas, mais ils se sont fait mal, ben leur job les appelle pour du temps supplémentaire. Comme moi, mon déménagement, à un moment donné, je me ramassais juste avec mes parents, tu sais, puis mes parents commencent à être vieux. Là.
Hey, c'était pas mal ça qu'on avait à dire sur les déménagements. On pourrait en parler longtemps, mais on est un petit peu dans un temps limité.
Faites votre budget, puis essentiellement, c'est ça.
Faites le budget. Écoutez, si vous pouvez pas, vous êtes plus jeune. Essayez une fois avec des amis, mais c'est un petit peu chiant, on va vous dire franchement, c'est un petit peu chiant, mais ça se fait. Mais c'est passé 30 ans, c'est sûr que ça vaut la peine d'engager. Puis des déménageurs, c'est leur job, ils sont forts, ils sont...
Ouais, t'économises pas tant que ça à la fin de la journée.
C'est ça, ouais, exactement. Pour le courrier du cœur. Je suis désolée, avec ma voix, je suis tellement pas une chanteuse. Là. Pour le courrier du cœur, cette semaine, nous allons parler des difficultés d'être bisexuel et d'être en couple.
Ouais.
C'est ça, hein, pas mal. Je pense que ça résume bien notre sujet. Mm-hmm. Isabelle?
Oui. Donc, moi, je suis... pour faire la blague, je suis bisexuelle pratiquante.
Pratiquante?
Ben, dans le sens que je le suis. C'est l'identité que je me suis à laquelle je suis attachée depuis que je suis très jeune, en fait. Donc je me suis toujours identifiée un peu comme ça.
Mm-hmm. Puis toi, t'es en couple avec un homme en ce moment.
Oui. Sur le spectrum de la sexualité comme telle, je suis deux choses. Je suis bisexuelle et demisexuelle. Donc ce que ça signifie, bisexuel, c'est quelqu'un qui est attiré par des gens de tous les genres, donc hommes, femmes, non définis, peu importe. Puis demisexuel, c'est les gens qui éprouvent seulement de l'attirance s'ils ont une relation préexistante avec la personne. Donc c'est des gens qu'il faut souvent que tu aies une longue relation émotionnelle avant d'avoir l'expérience de désir avec la personne. Donc, parce que c'est une combinaison de ces deux éléments-là, j'ai pas de limite sur les gens avec qui je peux développer des relations. J'aurais pu développer des relations avec n'importe qui, mais le montant de relations que j'ai est très bas. Donc, essentiellement, j'ai juste eu une relation à long terme.
Mais c'est correct, ça. Je veux dire, t'as pas besoin d'avoir comme...
Non, j'ai pas besoin d'en avoir des tonnes.
Tu donc pourrais,
ça fait pas, 15 ans que j'étais avec la même personne. Mm-hmm. Donc, au début, c'était mon chum, c'est éventuellement devenu mon mari. Et malgré tout ça, je m'identifie comme étant les deux quand même. Mm-hmm. Mais il y a tout un débat... En particulier qui refait souvent surface aux États-Unis pendant ce mois-ci, qui est aux États-Unis le mois de la Pride. Donc le débat de...
Le mois de la fierté.
Mm-hmm. Le mois de la fierté gay, oui. Donc, un peu l'idée de si t'es bisexuel, mais t'es dans un couple de long terme qui pourrait être identifié comme étant straight, est-ce que tu fais encore partie, dans le fond, du spectrum LGBTQA?
À un moment donné, c'est juste que, tu sais, on fait des... on choisit pas vraiment la personne avec... J'imagine que tu choisis plus ou moins la personne avec qui t'es en amour, tu sais, je veux dire, ça...
Non, c'est ça, c'est un peu l'affaire quand t'es bisexuel, c'est ça peut être n'importe qui, n'importe qui.
Ben oui, tu sais, c'est comme, c'est beau, c'est l'amour, fait que... Mais je trouve que c'est le fun parce que t'as comme le choix.
T'as un choix énorme, hein, oh, je veux dire. Ouais. Puis
moi, je pense que ça me un peu terrorisée parce qu'il y a trop de choix. T'sais, déjà dans la vie, j'ai de la difficulté à choisir mon épicerie là. Fait, imagine si j'aurais comme trop de choix comme ça là. C'est quand même.
Des fois, ça peut être de même. En fait, c'est souvent drôle quand les gens font des petits jeux, parce que je me souviens quand on avait joué un jeu avec Aurélie, qui est une amie commune.
Oui, oui, qui va d'ailleurs venir au prochain épisode.
Oui, c'est ça. Elle avait fait parce qu'il fallait jouer à un jeu où il fallait que l'un des participants devine le contenu, mais pas l'autre participant. Donc, elle avait essayé de faire un truc. Elle disait, OK, c'est une personnalité. Je suis comme, ouais. Que Isa trouve attirante. Je suis comme, OK, tu m'aides vraiment pas.
Il y en a vraiment beaucoup.
Ouais, mais en fait, c'était...
Benedict Cumberbatch?
Non, c'était pas Benedict Cumberbatch. Non. C'était Scarlett Johansson.
Ah ouais, ben, tu sais, écoute...
Scarlett.
Même moi, je suis hétéro, très hétéro, là, puis je suis comme, ah non, Scarlett est hot, là.
Non, mais c'est superbe.
Ah ouais, magnifique.
Ah, ben c'est ça, mais sur le coup, j'avais deviné comme Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr.
Ah, oh, Robert.
Ouais. C'est fait que j'essayais toutes les gens, tout le monde dans les Avengers.
Tous les personnages de... tous les Avengers.
Toutes les...
Captain America, c'est mon best, Captain America.
Ouais. Ben c'est ça, c'était Scarlett, mais c'est un peu l'idée. Fait qu'il y a toujours un débat qui revient, justement, comme, parce que tu fais un choix, puis c'est un choix qui peut être vu de façon extérieure comme un choix complètement hétérosexuel, est-ce que ça l'efface ton identité en tant que personne bisexuelle? Puis la bisexualité comme telle, c'est aussi un... C'est une orientation qui se fait remettre souvent sur le tapis comme étant valide ou pas. C'est un débat qui revient vraiment beaucoup. Puis j'ai l'impression que ça vient beaucoup avec l'idée qu'il y a des gens que, parce que les gens qui s'identifient comme faisant partie du spectrum gay, lesbien, tout ça, parce que t'essaies tout le temps de te battre pour tes droits, avoir quelqu'un qui peut genre passer d'un côté à l'autre de la clôture quand ça devient chaud, tu sais, t'as l'impression que ça fait un peu traître.
Ah, tellement. Moi, je vois pas ça de même, mais je peux comprendre, mais en même temps, c'est.
Non, je le vois pas de même non plus, mais je peux comprendre.
C'est comme. Je comprends d'où ça vient, tu sais. Comme, t'imagines, t'es en couple avec. Mettons, je suis une femme en couple avec une femme, puis là, ton ex, ta blonde te quitte, puis là, elle tombe avec un homme. C'est vrai qu'il peut avoir un côté, je me sens trahie, mais c'est comme, ça n'a pas rapport. Sérieux, c'est.
Ben, c'est beaucoup.
Au final, là, c'est.
Ça vient beaucoup avec du traumatisme, dans le fond, c'est un manque de confiance générale.
Ouais, mais il y a aussi, comme, il y en a souvent que, j'avais souvent entendu parler des hétérosexuels qui disaient, ah, mais qu'est-ce qui t'arriverait si, mettons, ton chien a mis de kit pour un gars, puis il y a beaucoup de
t'en
gens...
T'en pour lui.
Ouais, c'est ça. Ben, oui, je veux pas, mais, tu sais, mais non, mais dans le sens, quand je dis je veux pas, c'est que c'est soit un homme ou une femme, je veux dire, ça me dérangerait pareil, l'un puis l'autre, mais il y a des gens que ça leur dérange plus quand c'est... ça s'arrête, ça serait un gars, tu sais, c'est comme une grosse traîtrise.
Ben, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens que c'est... Il y a beaucoup de gens qui pensent, en particulier pour la bisexualité, parce que comme j'ai dit, il y a bien des gens qui nous voient comme quelqu'un qui peut passer d'un bord ou l'autre de la barrière comme ça nous choque. Là.
Mais c'est tellement pas le cas, là.
Non, c'est pas le cas du tout,
tout là, tu sais.
C'est, il y a bien des gens qui voient beaucoup, parce qu'à cause de toute l'historique autour de l'identité homosexuelle, lesbienne, bisexuelle, tout ça, l'idée que c'était comme un aspect fétichiste ou un aspect perverti, il y a encore... dans la culture comme plus straight, l'idée que si quelqu'un devient, entre guillemets, soudainement bisexuel puis décide de changer de bord de la culture, c'est à cause de toi, à cause de l'amant précédent.
C'est tellement pauvre.
Donc, comme j'ai dit, c'est tout le temps une affaire de confiance, parce que quand ce genre de situation arrive là, puis ta première idée qui te vient dans la tête, toi, en tant que l'ex-amant, c'est « Ah, le bâtard, il m'a menti ». C'est pas une affaire de...
J'étais pas assez bien.
Mm-hmm. C'est pas une affaire de... Peut-être qu'il a toujours été bisexuel. Peut-être qu'il a toujours été bisexuel, mais qu'il s'en est juste rendu compte maintenant. C'est jamais... L'idée, c'est jamais la personne tente de découvrir sa sexualité et la sexualité est fluide. L'idée qui vient dans la tête des gens, c'est quoi mon problème?
Ah, c'est tellement pas le cas, là.
Ben, c'est
cliché. C'est pas toi, c'est moi. Mais c'est un peu ça, tu sais.
Ben, c'est ça. Puis c'est un peu ça... qui affecte beaucoup l'identité bisexuelle, en particulier pour les gens qui sont dans des couples qui peuvent être considérés hétérosexuels, parce que c'est l'idée de, comme, t'es dangereux, t'es un traître, t'es blablabla. Fait que c'est toute une affaire de, comme, de confiance puis de méconnaissance de ce que c'est. Puis je peux comprendre pourquoi les gens voient ça de même, mais c'est difficile à digérer. C'est difficile des deux côtés de la clôture, parce que du côté... la fierté gay, tout ça, tu veux faire partie du groupe. Tu veux pas avoir des gens qui questionnent ta capacité à faire partie de ce groupe-là parce que tu veux le supporter, tu veux en faire partie, c'est partie de ton identité.
Ouais.
Puis du côté straight, tu veux pas être vu comme un fétichisme. Parce que souvent, les gens bisexuels, la façon que c'est mis à la télé, dans les médias, c'est super...
C'est objectifié, souvent.
C'est objectifié, mais c'est aussi des gens qui sont très, très lousses. Comme, je baise n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Puis, pour, dans le fond, titiller souvent le personnage masculin blanc du film.
Ouais, le classique, là. J'ai une question pour toi. Peut-être qu'on peut y répondre aussi ensemble. Là. Dans le fond, c'est bisexuel. Maintenant, il y a aussi le terme pansexuel.
Oui.
C'est la même chose? Qu'est-ce qui se passe?
C'est
pansexuel,
idéologiquement, c'est la même chose. Essentiellement, c'est bisexuel, la définition...
De base, là?
De base, c'est personne qui est attirée par deux ou plusieurs genres. Pansexuel, c'est la même chose.
Genre féminin ou genre masculin.
Exactement. Quand tu considères ça comme... Normalement, c'est pas la même chose. Pansexuel est juste un terme plus récent. Il y a beaucoup de gens... qui disent que pansexuel, c'est, entre guillemets, mieux, parce qu'ils disent que bisexuel, c'est transphobe.
Oui, comme... parce que pansexuel, ça inclut les transgenres aussi.
Oui, mais le problème, c'est, en disant que transgenre forme un genre séparé, ouais, c'est dire que les transgenres ne sont pas des vraies femmes ou des vrais hommes.
Exactement, quand c'est pas le cas, la personne transgenre se définit comme un homme ou une femme.
Exactement. Fait que moi, je dis que bisexuel et pansexuel, puis pour beaucoup de gens, c'est exactement la même chose. Puis tu choisis ta préférence, tout simplement. Ouais. Il y a bien des gens qui sont plus âgés, qui sont plus attachés au terme bisexuel, parce que c'est un terme qui a un historique, qui a existé très longtemps, qui a eu un drapeau depuis très longtemps.
Pansexuel, c'est récent.
Pansexuel, c'est très récent. Fait que souvent, c'est des gens plus jeunes. Des gens non-binaires, donc des gens qui s'identifient comme étant ni des femmes ni des hommes, sont plus confortables avec le terme pansexuel, parce que bisexuel, même si c'est un terme qui essentiellement veut dire la même chose, puis que t'aimes des gens de tout genre, hommes, femmes, non-binaires, il y a quand même le mot bi dedans, qui implique qu'il y a deux genres. Donc, il y a bien des gens qui sont non-binaires qui sont plus confortables avec pansexuel juste à cause de la nature du mot. Mais essentiellement, ça veut dire la même chose. Puis si t'as quelqu'un qui te dit que ça veut pas dire la même chose, puis qu'eux, ils sont plus l'un ou l'autre parce que transphobe ou blablabla, souvent, c'est peut-être pas la personne la plus sympathique.
Non, c'est ça. Écoute, c'est super intéressant. Puis je pourrais en parler super longtemps avec toi encore une fois, mais on va passer, on a des belles chroniques à présenter.
Ouh là là!
Ouh. Donc, on va commencer ça maintenant!
How many can you save?
11 species. Blue is the last of her kind.
You'll never capture her.
We thought you might know someone who could help.
A rescue op? What could go wrong?
Hey, Blue! You know me.
Come with me. You know you can't stay here. Pack your men up right now.
Alors maintenant, c'est la prochaine partie, une petite chronique des geekettes que Fanny a préparée sur le nouveau film de Jurassic World. C'est quoi le sous-titre
de celui-là? Oui, je vais te dire, c'est Jurassic World Fallen Kingdom.
Oh ouais. Est-ce que le tyrannosaure a perdu sa couronne?
Y a-t-il une couronne? C'est quoi? Non, il n'y a pas de couronne.
J'ai pas vu
c'est
le film.
Comme un kingdom. Ok, ouais, c'est un royaume. Excuse-moi, j'ai pas fait. C'est moi qui n'ai pas embarqué. J'ai comme pas traduit dans ma tête. Non, non, il n'y a pas. Mais écoute, moi, je préfère je pense que je vais faire un dessin d'un tyrannosaure avec une couronne. Là, Fallen Kingdom, c'est un genre de dinosaure.
Mais le pire, c'est que ça s'appelle Kingdom, mais tous les dinosaures sont des femmes.
Tous les dinosaures sont des femmes?
Ouais, tous les dinosaures, c'est des filles.
C'est quoi, ils changeaient de sexe automatiquement?
Dans le premier film, ils changeaient de sexe parce qu'il y avait les gènes de batracien.
Ah, OK.
C'était ça l'histoire du premier. Parce qu'ils avaient fait en sorte que tous les dinosaures étaient des filles pour qu'ils se reproduisent. Puis ils ont réussi à se reproduire parce qu'il y avait des gènes de batracien.
Hey, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu le premier film. D'ailleurs, je vais en parler dans ma chronique.
Ben, c'est ça. Mais dans le nouveau Jurassic World, donc celui avant celui-là, c'était aussi toutes des filles. Le tyrannosaure, c'était une fille.
Oui, ça, je savais ça, par contre.
Fait que ça va pas être Fallen Kingdom.
Oh! Bon! Hey, avant de commencer ma chronique qui parle de dinosaures...
Agenda féministe dinosaure 2018.
Ouais, c'est ça. je veux ça, mon maudine. Moi, je fais pas de ce qu'on appelle des spoilers, des divulgacheurs en français. Je sais. Mais moi, j'aime bien le mot divulgacheur.
J'adore pas ça, mais c'est un peu long.
C'est un peu
plus
long.
Comme...
Je sais pas, faut trouver un autre mot, mais quoi? T'sais, divulguer puis gâcher, ça fait divulgacheur. En tout cas, on va y penser, mais...
Une pipelette.
Quoi?
Une pipelette?
Une pipelette, je suis pas sûre.
C'est un terme très français pour quelqu'un qui divulge pas mal n'importe quoi.
Ah ouais, je connaissais pas ça.
Ouais, une petite pipelette.
Bon,
c'est comme le truc pour la bicyclette.
Wow, je prends des mots. Ça sonne drôle, par contre. Mais bon, il n'y aura pas de spoiler dans cette critique-là. Donc, vous pouvez l'écouter si vous n'avez pas vu le film. Je ne vais pas divulguer des choses que vous ne voulez pas savoir. Donc, ouais, Jurassic World.
Le seul spoiler, ouais, c'est que le titre n'est pas exact.
Jurassic World Fallen Kingdom, qui devrait être Fallen Kingdom, selon nous autres.
Ouais.
C'est réalisé par J.A. Bayona. C'est un réalisateur espagnol qui s'est fait connaître par son film The Orphanage, qui est un film d'horreur de 2007 environ.
Ouais, c'était bon, ça.
J'ai jamais vu, je suis pas une fan de films d'horreur, mais bon. Les acteurs principaux, c'est Chris Pratt dans le rôle de Owen. C'est quoi ça? Isabelle est en train de rouler des yeux, c'est quoi ça?
Ah, c'est parce que je le déteste tellement, mon
Ok, on va en reparler. Ok. Et Bryce Dallas Howard qui joue le rôle de Claire, sa douce dans l'épisode, ben l'épisode, le film.
Non, elle est bien.
Ouais, on va en reparler, on va en reparler. 4 ans après la fermeture du parc thématique Jurassic World, Owen et Claire retournent à Isla Nublar sauver les dinosaures quand ils apprennent qu'un volcan autrefois inactif est actif sur l'île et menace l'existence même des dinosaures. En cours de route, Owen part à la recherche de Blue, le vélociraptor avec lequel il avait une grande affinité, et découvre une conspiration qui pourrait perturber l'équilibre de notre planète. Donc, en gros... C'est pas mal ça, le synopsis. C'est juste un film divertissant, bien effectué au niveau de la réalisation et des effets spéciaux, mais sans plus. C'est très dommage, car avec les dinosaures comme sujet principal et également raison principale pour laquelle moi j'allais voir ce film-là, ça nous laisse un petit peu sur notre faim.
J'ai l'impression que pour toutes les Jurassic, ça a toujours été les effets spéciaux qui étaient le truc, même quand ils avaient presque tout avec des effets pratiques dans le premier, c'était...
Ouais, mais le premier, la différence, c'est que c'était comme la première fois.
Ouais,
non, c'était comme vraiment révolutionnaire.
Tu sais, même le Jurassic World, là, toutes les scènes, la mise en scène, les couleurs, les effets spéciaux, c'était toujours superbe.
Ouais, ben c'est ça. Faut expliquer aux gens qu'il y a quand même plusieurs films de dinosaures. Moi, j'étais pas une habitude. J'ai vraiment découvert un monde. J'ai vraiment plus découvert ça dernièrement, là, les nouveaux films, parce que t'as vraiment comme t'as eu le premier Jurassic Park qui est sorti en 1993. T'as eu la suite. Un troisième film qu'on essaye d'oublier tous. Puis.
troisième film.
Nous, on s'en rappelle plus. Puis ensuite, là, dernièrement, il y a justement Jurassic World qui. Moi, j'ai vu le deuxième, puis il y a eu le premier aussi, il y a quelques années. Donc, pour venir à Jurassic World, celui que j'ai vu hier. Donc, ce film reste très similaire et fidèle de la nouvelle mouture de Jurassic World. Vous allez y voir, bon, premièrement, des gens qui se font manger par des dinosaures.
Choc.
Surprise. Des batailles de dinosaures.
Choc.
Quelques scènes touchantes entre les humains et les dinosaures. C'est quand même plus cute, ça. Ça,
ouais, j'aime. Ouais, c'est le fun.
Ouais, personnellement, c'est ce que je préfère. En début du film, on est rapidement captivé par les événements et on se demande ce qui va se passer. Mais plus le film avance et plus on y perd de l'intérêt à cause de l'intrigue qui s'alourdit et s'allonge. Tu sais, le scénario, il reste quand même conventionnel. Il y a les bons, il y a les méchants et il y a très peu de nuances dans tout ça. Les dialogues sont très clichés et à l'eau de rose. Il y a certains dialogues là, entre Owen et Claire, là, les personnages principaux, là, que je roulais des yeux tellement c'était... D'ailleurs, il y a un dinosaure, il y a un dinosaure en arrière aussi qu'on peut entendre. Ouais. C'est mon chien.
Le pug,
c'est... Lui, c'est plus un descendant du loup que des dinosaures, malheureusement.
T'es sûr?
Ah, oui!
Un loup s'est fait frapper par une voiture!
Oui.
De l'avant.
J'écoute, j'ai tout entendu sur mon chien. Moi, il n'y a plus rien qui me fâche maintenant.
Mais non, ça m'étonne pas tellement, je veux dire, pour les dialogues, parce que dans le premier, il y avait des gemmes telles que « Est-ce que tu veux consulter ici ou dans ma maison? »
Ouais, c'est ça. C'est
que, oh boy.
Écoute, ça reste un peu dans le même genre. Là. On n'a pas trop changé. C'est dommage.
Oh, la passion brûlante!
Ben, tu sais, oui, mais ils sont quand même un petit peu moins pires, là, tu sais, que dans le premier film.
Ouais, je pense que c'est plus la qualité des acteurs que celle du dialogue.
Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Moi, je trouve que c'est des excellents acteurs.
Mm-hmm.
Mais tu vois, mon opinion...
Là, on parle de Chris Pratt, puis
ouais.
Bryce Howard.
Bryce
Howard,
c'est ça. Est génial. J'ai toujours trouvé qu'il était très bon. J'ai beaucoup de problèmes avec la façon dont son rôle a été approché dans les deux Jurassic, parce que j'ai vu le premier, j'ai pas vu le deuxième, mais j'imagine que c'est à peu près la même chose, basé juste sur le contenu que j'ai vu. Mais genre, comme... Elle travaille dans une jungle. Elle s'en va chercher, quand les deux enfants disparaissent dans le premier film, elle va chercher Chris Pratt pour qu'il cherche. Tu me fais pas croire qu'une fille qui a un bureau dans le milieu d'une jungle, qui a pas des espadrilles dans son bureau quelque part.
Non, mais ça a l'air que c'est... moi, j'ai entendu dire, ça a l'air que c'est l'actrice qui voulait garder ses souliers à talons hauts, parce qu'elle trouvait que c'était plus, ça avait plus de sens avec son personnage qu'elle ferait ça, parce que justement son personnage est vraiment détestable là, dans le premier film.
Non, ça fait du sens dans le bout où elle travaille dans son bureau, mais c'est parce qu'elle quitte le bureau pour aller dans la jungle pour aller chercher Chris Pratt. Moi, j'enlèverais mes loups boutins juste pour pas les mettre dans le bout.
Je comprends, mais en même temps, c'est une fille, tu sais, est tellement comme... C'est tellement une fille vaine et hautaine que, of course, qu'elle a pas de souliers de running shoe, tu sais. Elle porte tout le temps ses talons hauts. Moi, je trouvais que ça avait du sens, personnellement.
Mais en même temps, je veux dire, c'est aussi la leader d'une compagnie de multimillions. Il faudrait qu'elle soit très pratique.
Ouais, mais ses souliers sport sont au gym. Elle les a pas portés avec elle. Elle porte juste des super talons qui coûtent cher.
Puis, je veux dire, Chris Pratt, je le trouvais. Je l'ai pas aimé dans Jurassic World parce que Chris Pratt, à la
base. Pas le film que j'ai vu le premier.
Ben, les deux, puisque c'est essentiellement le même personnage. Tu sais, Chris Pratt, c'est un comédien ennemi. Puis je veux dire...
J'en reparlais de ça.
Ouais.
Okay, je suis rendue là. Attends, je vais y aller. Fait que, moi, justement, ce que j'aime beaucoup aussi, comme tu disais, moi, j'aime beaucoup aussi Chris Pratt, mais je trouve que c'est une série qui met pas à l'avant du tout ses talents.
Non, ben, c'est parce qu'il veut Harrison Ford. Il joue Harrison Ford.
Oui, c'est ça. Parce que Chris Pratt aussi... Oh, mon chien, j'ai appelé, désolé. Chris Pratt, l'affaire, c'est que c'est un... Comme ceux qui l'ont déjà vu dans Parks and Rec, la série Parks and Recreation, de son nom complet, c'est un acteur très, très physique et très comique.
Ouais.
Puis c'est utilisé un petit peu, à un moment donné, dans le film, mais pas tant que ça. Ils veulent, comme tu dis, un genre d'Harrison Ford, mais c'est pas comme... Tu sais, c'est comme un peu fade. En tout cas, moi, je trouve que la direction des acteurs a été un petit peu... mis plus basse que qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner, là.
Moi, j'ai vraiment de la bizarre avec Chris Pratt, qui est comme « Salut, poupée! » C'est genre...
Ouais, mais c'est son avec l'acteur ou avec son personnage?
Ben, le personnage, mais
le personnage,
c'est tellement dissonant avec l'acteur.
Oui, c'est ça! Mais en même temps, ça me dérange pas, mais moi, je pense que c'est pas un problème de l'acteur, mais plus de comment ça a été dirigé, les acteurs, puis comment ça a été fait.
Bref. Parce qu'il est un peu le même quand il est Star-Lord, tu sais, dans les films de Marvel, mais en même temps...
Non, il est pas comme ça, il est comme funny, il est comme...
Il est un peu salut poupé, mais c'est drôle.
Il est exagéré. Là-dedans, il est vraiment sérieux. Comme son jeu est plus sérieux. Donc, je continue.
No fun allowed.
Donc, c'est ça pour ce qui est du personnage de Bryce Dallas Howard. Son personnage, je l'ai trouvé moins détestable que dans le premier film, ce qui était un plus. Oui, ça la rend plus sympathique. On comprend mieux les raisons pour lesquelles Owen tombe sous son charme, autre que son évidente beauté de rousse naturelle et que je suis très jalouse d'elle.
Ah non, elle est super.
Ah, elle est magnifique, mon Dieu. fait marquant, son personnage est devenu une sorte de social justice warrior pour la cause des dinosaures. Je trouvais ça assez comique, bien que ça ne veut pas l'être. Hey, mon chien est en train de jouer après moi, désolé, je suis un peu déconcentrée. Malheureusement, leur personnage reste toujours un peu fade et j'ai eu beaucoup de difficultés à m'attacher à ceux-ci. On s'attache plus facilement aux personnages secondaires et c'est bien dommage. Il y a un programmeur de service. C'est toujours important dans un film avec des dinosaures d'avoir un programmeur informatique de service. T'as aussi la vétérinaire de dinosaures de service aussi, mais étonnamment, ils sont comme super sympathiques puis ils jouent bien leur rôle, même si c'est des personnages secondaires.
Oh ouais.
Et bon, le raptor Blue, là, il est bien correct aussi.
Tout le monde aime Blue.
Oui.
Elle aussi, c'est une fille.
Ah ouais, c'est des films...
Fallen Queendom.
Du coup, c'est peut-être un film féministe, on ne sait pas. Fallen Queendom. Tout est pris sérieusement. Les dialogues, le récit, il y a beaucoup de noirceur dans le film. On est plus proche du film d'horreur que d'un film d'aventure familiale. Là. Avis aux parents. Il y a une scène particulièrement épeurante pour un enfant très sensible à la fin du film. Je vais vous dire un indice, c'est dans la bande-annonce, cette scène-là. Puis c'est pas mal... Je trouve ça quand même épeurante. Il y a vraiment une ambiance de film d'horreur un petit peu là, dans ce film-là que j'ai trouvé moins familial. Là.
Il y en a pas mal toutes les Jurassic.
Des ambiances d'horreur?
Oh
ouais. Oui, mais c'était pas tant que ça non plus. C'était comme... Ça, c'est plus poussé, j'ai trouvé. Ouais.
Je sais pas, je laisserais pas des enfants en bas âge écouter ça de toute façon.
Ben, on l'a tout écouté quand on était début ado, je pense. Là.
Puis, début ado, c'est
ben,
pas
même quand il y a bien des gars qui ont vu ça quand ils étaient plus jeunes aussi. Anyway, moi personnellement je trouve que ça manque beaucoup d'humour, c'est un film sur les dinosaures, je veux dire, commande même un petit peu d'humour, c'était un petit peu sérieux comme film. Au moment où l'action avec les dinosaures commence, il y a une excellente scène de suspense avec le retour d'un véhicule que j'aimais beaucoup dans le premier Jurassic World, essayer de deviner encore une fois. En parlant du premier film, il y a énormément de références cachées au premier film Jurassic Park de 1993. C'est le fun de jouer à trouver les références de Jurassic Park. Moi, je recommanderais aussi aux gens à la maison de voir le premier Jurassic Park, juste pour le fun, puis ensuite de regarder ce film-là. Pour terminer, Jurassic World Fallen Kingdom, ça reste un bon divertissement estival sans plus. Il y a quelques scènes d'action intéressantes et la réalisation et les effets spéciaux de dinosaures y sont bien effectués. quand même la base pour ce genre de film-là. Ouais. Mais on n'est pas surpris et le récit reste très, très conventionnel. Allez le voir au cinéma si vous êtes un fan de la franchise ou si vous avez envie de voir des dinosaures sur grand écran. Sinon, vous seriez mieux de regarder confortablement assis dans votre salon tout en mangeant non pas un steak de bronchosaurus, mais du poulet, en vous rappelant tristement que les oiseaux sont les descendants de ces dinosaures que nous aimons tant.
Supposément.
Supposément. Ben, je pense que oui, hein? Y a-tu comme des preuves ou...
Pas des preuves, direct.
C'est très... Mais voilà, c'était ma chronique sur Jurassic Park Fallen Kingdom.
Fallen Kingdom.
Kingdom. Deuxième chronique des geekettes. On parlera plus de dinosaures, on va parler de d'autres choses avec toi, Isabelle.
Je pensais parler, comme je disais au début, je pensais parler un petit peu de travail dans le webcomic.
Mm-hmm.
Ce que c'est, ce que ça représente, tout ça.
Mm-hmm.
Parce que je trouve que c'est pas mal intéressant, puis à part pour les gens qui travaillent dedans, ça reste un médium un peu mal connu. Souvent, les gens, ils pensent que c'est comme la première, l'étape A avant que tu fasses ramasser par un vrai... un vrai éditeur
de bande dessinée. Là.
C'est ça, c'est pas...
Parce que quand on parle du webcomic, pour... je suis sûre que les auditeurs, tous les auditeurs savent c'est quoi, mais au cas où qu'il y a du monde qui savent pas c'est quoi, ouais. C'est comme une, c'est une bande dessinée qui est en ligne sur Internet.
Ouais, c'est une bande dessinée dont la méthode principale de diffusion est le web. Donc souvent, les gens utilisent une plateforme telle que Webtoon ou Tapastic ou SmackJeeves, ou bien ils créent leur propre site, ou ils travaillent à travers un publicateur, un éditeur web, tel que lequel auquel moi je travaille, qui s'appelle Hiveworks. Donc c'est ça. C'est un médium qui reste mal connu. Pourtant, c'est un médium qui fait tellement bien dans l'histoire de la bande dessinée, parce que la bande dessinée, il y a toujours eu la version commerciale connue, Marvel, DC, tout ça.
Mm-hmm.
Mais il y a toujours eu une version indie aussi. Principalement des années, à partir des années 70, il y avait ce qu'on appelait la BD Underground. Donc la BD Underground, c'était plus fait par des gens qui faisaient comme des zines, que c'est comme des petits formats magazines, tout ça. Puis là-dedans, il y a beaucoup de noms qui sont maintenant très très connus, comme Crumb, il y avait la BD Moss qui avait été faite comme ça.
Julie Doucet aussi, elle avait sorti.
Julie Doucet, c'était tout du Underground.
Il y en a plusieurs, là.
Donc il y a vraiment des grands noms qui ont été depuis ramassés par des grosses compagnies comme Fantagraphics, qu'ils ont réimprimé. Et puis après l'Underground, il y a eu l'Alternatif. Donc l'Alternatif, c'était un peu le même genre, donc un peu diffusé comme ça, fait plus maison, fait indie. Mais la différence entre l'Underground et l'Alternatif, c'est que l'Alternatif, il y a beaucoup plus de voix féminines. Parce que l'Underground, quand on pense au grand de l'Underground, ça écrit des affaires comme Bone aussi. Le Bone, c'était de l'Underground à l'époque.
De Jeff Smith.
De Jeff Smith, c'est ça. C'est surtout des hommes quand on pense à ça. Des hommes qui sont contre-courant de les super-héros, ou ben Astérix, ou ben tout ça.
Mm-hmm.
L'alternatif, il y a plus des voix féminines. Le webcomic, c'est un peu comme l'évolution naturelle de ça. Puisque, essentiellement, ce qui forme de l'alternatif, l'underground, c'est des thèmes qui sont pas nécessairement vus dans la BD, plus commerciale. Donc, le LGBT, les voix féminines, les trucs, c'est plus axé sur les personnages. Puis aussi, des influences par des BD non-américaine, donc comme le manga. Et principalement que c'est fait un peu par les moyens de bord cheap, si on veut, entre guillemets. Et l'Internet est devenu un peu comme le remplaçant du fanzine. Et quelque chose qui me fait penser encore plus que c'est l'évolution naturelle de l'underground et de l'alternatif, c'est que les gens qui font du webcomic, c'est des fanas de fanzine. Eux-mêmes, ils font plein de fanzines.
Est-ce que la plupart des gens font encore des fanzines?
Il y en a beaucoup, beaucoup. Souvent, ils ont leur série principale, que c'est publié en plus gros volume, que s'ils décident de le faire en papier. Souvent, que c'est fait par eux-mêmes en utilisant un module comme Kickstarter. Mais ils font également des zines.
Mais souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils vont servir plus du site web pour la diffusion, pour se faire connaître. Puis quand ils vont faire un fanzine, c'est plus pour la vente.
Oui. C'est pareil s'ils impriment le livre. C'est pour ça qu'ils le font à travers un truc comme Kickstarter. C'est principalement pour ramasser de l'argent, pour imprimer le livre et ensuite avoir des bénéfices qui viennent de ça. Donc, c'est vraiment genre comme... le descendant direct spirituel de ce genre de BD-là. Le webcomic, justement, parce que c'est fait un peu avec les moyens de bord, puis c'est fait plus maison, puis indie, puis tout ça, c'est supporté par des trucs, comme j'ai dit, il y avait des éditeurs web, des plateformes web, également des systèmes comme Patreon, Ko-fi, que c'est des systèmes de soumission. Tu peux t'inscrire à un auteur, puis tu payes un certain montant par mois pour avoir accès à des matériaux supplémentaires.
OK, puis... Ko-fi, c'est comme Patreon, c'est ça?
C'est comme Patreon.
OK. C'est plus du côté américain ou...
Oui, les deux, c'est principalement américain.
OK, parfait.
Pour les Européens, c'est des affaires comme Tipeee.
OK, parfait.
Donc, c'est plus eux, c'est plus ça. Il y a Tipeee, puis il y en avait un autre pour les Européens aussi. Mais le nom
je pense que Ko-fi a comme pris le dessus sur Patreon parce qu'à cause des gens de... Il y a comme eu une genre de... controverse, là, il y a quelques mois avec Patreon. Ah, c'est pas fini,
pas,
ça.
Pas tout à fait. Patreon, encore... Patreon contrôle quand même tout, parce que le problème avec Patreon, c'est qu'ils ont une hégémonie du marché. Ils sont techniquement les seuls qui font ce qu'ils font exactement comme ils le font.
Ils n'ont pas de compétition.
Pas encore. Il y a de la compétition qui s'en vient. C'est dans... Il y a des gens qui essaient de produire pour compétitionner contre eux, parce que c'est pas un secret que Patreon, c'est pas exactement... Ils font pas ça pour les artistes. Ils font vraiment ça pour comme vendre leur compagnie. Là. C'est un start-up genre San Diego. Là. C'est pas très...
Mais c'est correct aussi. Là. Je veux dire, ils offrent un service aux artistes.
Oui, mais... comment dire?
Les... Je suis l'avocat du diable en passant. Là.
Ils offrent un service pour les artistes, oui. Et le fait qu'ils existent, même s'ils ont une hégémonie, c'est très bien. Le problème, c'est que les changements qu'ils font présentement sont pas pour le bénéfice des artistes. C'est plus pour le bénéfice des investisseurs. Ce qui fait en sorte que si tu crées un système que le but c'est de supporter des artistes, mais que tu fais des changements pour supporter tes investisseurs, tu perds un peu, dans le fond, le bien de ta clientèle.
Mm-hmm. Ça dépend de leur valeur de compagnie, de leur mission aussi.
C'est ça.
Ouais, ça va, c'est parce que ça va sans doute en clash, je sais pas le mot français, là, avec leur mission qui est d'aider les artistes, mais là, ils n'aident pas vraiment les artistes.
Leur mission, ça n'a jamais été d'aider les artistes.
Ah non, OK.
Ça n'a jamais été sur leur mission.
Ah non? Sérieusement, comme si tu vas voir leur mission d'entreprise, c'est...
Ouais, c'est un rajout récent.
OK.
Quand on parle des compagnies comme Kickstarter qui font essentiellement la même chose, donc qui donnent aux artistes indie et les artistes de webcomic une manière de faire de l'argent,
mm-hmm.
Kickstarter, au contraire, c'est une compagnie... Sans profit, c'est une compagnie bénéfice public. Donc, c'est vraiment différent. Patreon, c'est entièrement une compagnie commerciale,
okay.
Avec des stocks, avec des investisseurs.
Kickstarter, c'est comme une OBNL, dans le fond?
C'est ça.
Ouais, okay.
Donc, c'est pas la même game. D'ailleurs, Kickstarter essaye de créer un compétiteur pour Patreon. Puis, s'ils y arrivent, j'ai l'impression que Patreon va perdre des clients. Donc, pour continuer, comme je disais, le webcomic, c'est un peu comme le descendant spirituel de l'underground et de l'alternatif. Donc, du coup... Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font créer et beaucoup, beaucoup de voix de gens qui font partie de minorités, donc des gens qui font partie du spectrum LGBTQA, des personnes, des artistes de couleur, toutes sortes de choses, des femmes, beaucoup, beaucoup de femmes. Le webcomic, c'est, je dirais, principalement des femmes.
Ah oui, c'est-tu pas juste parce que, mettons, toi, tu suis plus des femmes ou... Y a-tu comme des... Moi, je pose des questions. Y a-tu des statistiques qui démontrent ça? Ou...
Y a pas des statistiques parce que c'est difficile, étant donné qu'il y a toujours l'anonymat du web.
Ah ouais, c'est vrai.
Mais je veux dire, si tu regardes les gros vendeurs, c'est souvent des femmes, des gens partant. Y a beaucoup de femmes parce que j'ai l'impression que parce que le milieu de la BD plus commercial est encore très orienté vers les hommes, les hommes ont tendance à...
Ils ont plus le choix dans le milieu commercial, c'est mais ça. Nous, les femmes qui lisent la BD, y en a... pas mal. On est sûrement 50%.
C'est
là,
ça. Souvent, si t'as une histoire que toi, tu veux raconter, il faut que tu le fasses dans le milieu indie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se ramassent dans le webcomic.
Moi, ça a du sens, ouais.
Ouais. Moi, un peu, ce que j'essaie de faire avec ma job, c'est faire en sorte que...
Parce que c'est ça. Toi, ouais. Tu travailles chez Iveworks.
Iveworks, qui est un studio et éditeur webcomic.
Allez voir ça. On va mettre les liens sur le site web des Geekettes en passant.
Si, le but derrière ça, c'est un peu d'aider les artistes à monétiser ça. Parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui considèrent que tu fais un webcomic, puis tu fais tant et aussi longtemps jusqu'à ce que tu te fasses ramasser par un, tu sais, entre guillemets, vrai éditeur.
Mm-hmm.
Puis je veux dire, oui, il y a des gens que c'est ça qui arrive, qui font leur webcomic, puis qui se font offrir un contrat pour un éditeur, puis qu'ils prennent, et c'est très bien. Si le contrat fonctionne avec ce qu'eux, ils désirent, tant
ouais,
mieux, ils
tant
doivent
mieux.
Prendre.
Mm-hmm.
Mais il y en a beaucoup que... Du moins pour leur webcomic, parce que souvent, ils font d'autres projets qui sont des fois avec des éditeurs, parce que les webcomics, de plus en plus, influencent ce qui est produit par les éditeurs plus traditionnels, parce qu'il y en a tellement, puis ça influence vraiment le lectorat. Mais il y en a beaucoup que leur webcomic, là, le webcomic principal qu'ils font, ça reste indépendant. Parce que ça devient un peu leur carte de visite.
C'est différent, ce qu'ils font.
C'est ça. Puis ce qui est intéressant avec ça aussi, c'est que je vois beaucoup de gens qui font un projet, comme travaillent avec certains projets avec un éditeur, puis leur webcomic reste un projet indépendant. Puis partiellement pour ça, c'est si ton projet décolle, toutes tes ventes sont des ventes directes. Si tu fais des ventes avec Kickstarter, t'as pas besoin de donner une part à un éditeur, t'as pas besoin de donner une part à qui que ce soit. C'est
oui, sauf que t'as plus de travail, par contre.
oui, t'as plus de travail. Mais en même temps, le truc avec le milieu indé, c'est que t'es habitué à tout faire. Puis si tu fais partie d'organismes comme Hiveworks, t'as quelqu'un qui est là, puis qui est prêt à t'aider à créer ton livre. Ça fait partie des services qu'on fait.
Ouais. Ben c'est... Puis là, les gens... Mettons, là, il y a des éditeurs qui font de la bande dessinée. Ils disent, moi, je veux envoyer mon... Je veux proposer mon webcomic, mon comic à Hiveworks. Comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Qu'est-ce qu'il faut pas qu'ils fassent?
On a un système de soumission qui est sur notre site. Dans le système de soumission, tous les détails sur qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on veut, comment ça doit être présenté, sont listés. Donc, tu peux nous envoyer ça. C'est un peu comme tu l'enverrais à n'importe quel éditeur. Tu prépares un dossier selon ce que l'éditeur désire, tu nous envoies ça. Puis une fois qu'on l'a, on les évalue, puis on rembourse une couple de personnes par année.
Combien de livres vous publiez par année, environ?
On a plus de 200 BD qui sont actives en ligne.
Mm-hmm. Quand même, 200?
Oui.
Comme publiés, là?
Qui sont actives, donc les gens publient en ce moment.
OK, bien c'est du webcomic.
Oui, digitalement, on a plus de 200. Les livres, je pense qu'on a fait 5 à 10 par année. Puis en ce moment, ce qui est vraiment excitant, c'est qu'on a, on a conclu un accord avec Hachette. Certains des webcomics sont publiés en français également. Donc imprimés en français.
Ah, c'est
et distribués par Hachette.
Wow, c'est super bien ça!
Oui,
c'est... Parce qu'habituellement, vous, c'est plus en anglais aussi, c'est anglophone.
Oui, nous autres, c'est anglais. Remarque, on essaie de faire comme si, si l'auteur a, une, a leur propre langue, on fait les deux versions d'habitude. Hmm. Puis on essaie de développer une version digitale pour l'espagnol. Mais principalement, oui, c'est l'anglais qu'on dessert. Mais on, la traduction, c'est un point très important qu'on essaie d'adresser. Puis c'est ça, on a l'espèce de deal avec Hachette, ce qui nous permet de faire ça également. Fait que c'est vraiment excitant. Puis ce qui est vraiment, vraiment intéressant avec ça, ça veut dire que c'est des bandes dessinées qui sont... qui appartiennent aux créateurs, parce que principalement avec Hiveworks, on n'a pas les droits de la bande dessinée. On a des droits de diffusion web, des droits de diffusion en imprimé. Mais tous les droits créatifs restent avec l'auteur. Ça veut dire qu'à travers Hiveworks, les gens... à qui possèdent entièrement les droits de leur histoire, arrivent quand même à vendre, à diffuser dans d'autres pays. C'est comme, c'est du jamais vu, c'est vraiment cool. D'habitude, il faut que ta série soit achetée par un éditeur pour ensuite que tu puisses considérer des traductions. En ce moment, à cause que l'Internet, c'est tellement un outil de diffusion plus puissant que les zines l'étaient à l'époque, parce que des compagnies comme Hiveworks, Patreon et Kickstarter existent, l'indie devient aussi pertinent que le commercial. Tu peux aller aussi loin avec... Tu peux influencer autant de gens avec une idée maintenant que tu pourrais le faire avec le commercial. Tu peux avoir plus de ventes que certaines séries commerciales même. C'est ça qui rend le webcomic super intéressant, c'est parce que la limite, c'est quasiment juste l'imagination. T'as un public, ton public cible, c'est le monde entier.
C'est super. Vous êtes combien chez Hiveworks?
La compagnie comme telle, on est 10 personnes qui travaillent là.
Quand même, c'est 10.
Avec beaucoup, beaucoup d'artistes. En fait, 10 personnes pour le montant d'artistes qu'on dessert et le montant de choses qu'on fait.
C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. Tout le monde dans la compagnie fait la job de 3 personnes.
Vous êtes à temps plein, tout le monde, dans la compagnie?
Presque. Il y a des gens à temps partiel, mais comme... OK. Chaque fois qu'il faut mettre des heures supplémentaires, tout le monde met la main à la pâte, ce qui est très généreux de ces gens. Bien sûr, ils sont compensés pour les heures supplémentaires, mais j'apprécie qu'ils peuvent libérer leur horaire pour nous les offrir.
Vous avez un site, là, où est-ce qu'on peut aller voir toutes vos publications?
Oui, Hiveworks, on a notre site principal. Mm-hmm. Toutes les publications sont listées. Puis il y a des liens pour aller tous les voir, tout ça. On essaie aussi de développer des trucs comme un app qui va permettre de les lire directement sur le téléphone. C'est quelque chose qui est en développement. Et bien sûr, on a notre magasin où toutes les copies papier peuvent être achetées. Mm-hmm. Et bien sûr, toutes les versions qui vont être publiées par Hachette peuvent être trouvées en librairie. Donc si vous allez à la librairie Z,
oui, exactement.
Pour avoir nos livres.
Oui.
J'espère.
Oui, mais on va leur en parler, genre. On va envoyer un petit message.
Ça serait probablement plus en juillet, parce qu'ils viennent juste de sortir là, maintenant, en France. Mm-hmm. Ça fait à peu près 6 semaines pour débarquer au Canada. Puis en ce moment, ce qui a été traduit en français, il y a 3 séries. Donc, il y a Awaken, qui est une série de science-fiction, très inspirée par le shonen manga. Donc, c'est pour un jeune garçon qui veut devenir la sorte de chevalier que dans cet univers-là, parce que son père s'en était un, puis il veut faire ça, puis il découvre des gens qui ont le pouvoir de manipuler le flux. Puis il découvre que il y avait quelque chose qui avait été signalé comme étant une épidémie. En fait, c'est des gens qui ont ces pouvoirs-là, fait qu'ils arrêtent, puis ils emprisonnent, puis c'est pas pourquoi, puis c'est découvrir un peu pourquoi tout ça s'est arrivé. Donc, Awaken, ça s'appelle ça. L'autre, c'est Blind Springs. Donc, l'histoire d'une jeune princesse qui est cachée dans une forêt pendant 300 ans, qui en sort pour découvrir un monde complètement changé, et qui essaie de, dans le fond, sauver le monde de la magie qui est emprisonnée avec elle, qui commence à le dévorer, là. Et finalement, le dernier, Sleepless Halloween, que c'est l'histoire de jeunes magical girls dans une ville qu'à chaque nuit, la ville devient envahie par des monstres. Puis c'est un peu comme le mystère de cette ville-là. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les magical girls ont leur pouvoir? C'est quoi le rapport? Pourquoi juste la nuit? Pourquoi la nuit s'allonge graduellement? Etc, etc.
Donc, est-ce que là, c'est plus des histoires un petit peu plus... influence manga?
Très influence manga. J'ai l'impression
votre catalogue, c'est... Est-ce que c'est juste ça?
Non, notre catalogue est très diversifié, mais Hachette...
C'est ce qu'il recherchait.
Oui, Hachette recherchait beaucoup tout ce qui était très influence manga. Mm-hmm. Tout ce qui va sortir chez eux dans les premiers sets, si vous voulez, ça va pas mal être ce qu'on a qui est plus influence manga, donc très influence shonen, très influence shoujo. Mais on a des affaires comme... On a une série qui s'appelle Wild Life, que c'est du gothique Americana. C'est vraiment très, très poussé. On a du super-héros.
Fait que vous avez vraiment des produits plus de niche, là.
Oui, on a des séries que c'est définitivement plus style commercial. Puis des affaires vraiment méga niche, là. Ça dépend. Il y a vraiment de tout, là. On a du zombie, on a de la science-fiction, on a de la romance, on a même de l'érotisme.
Écoutez, c'est drôle.
C'est tout fait par des femmes, ou presque.
C'est merveilleux. Écoute, je suis vraiment curieuse, j'allais passer. C'est drôle que je te connais, mais que je connais pas tant que ça. Je connais Iveworks un peu, ça fait longtemps que tu m'en parles, mais je connaissais pas tant que ça. Donc
Le vague Molonite où je travaille.
Oui, mais je m'entends toujours parler. Puis, tu sais, moi, je suis plus souvent... Allez, je vais plus vers l'imprimé, je vais moins vers le moins comique, mais là, gars, je vais y aller plus souvent maintenant, hein?
Mais l'affaire, c'est qu'on a beaucoup de livres en imprimé maintenant,
j'ai plus aucune excuse en ce moment-là.
C'est ça, comme... même en français. Fait que tu peux les acheter soit en français, soit en anglais, sur notre site.
Donc, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour ta chronique?
Oui, je dirais que c'est important pour les gens qui aiment la bande dessinée, pour les gens qui travaillent dans la bande dessinée, éditeurs et autres. Dans le fond, si tu touches la bande dessinée de proche ou de loin pour ta passion, ton travail, c'est important de vraiment considérer le webcomic, de le lire. Puis pas juste le lire dans l'optique d'essayer de trouver des gens que tu pourrais comme engager pour t'accompagner, mais juste comme apprécier ce qui est fait maintenant, parce que toutes les jeunes voix, les voix alternatives vont être dans la bande dessinée. Comme j'ai répété plusieurs fois, c'est le descendant spirituel de l'alternatif, le descendant spirituel de l'underground. Et l'underground, l'alternatif, à travers les années, c'est ce qui a transformé la bande dessinée. Comme j'ai donné l'exemple de Bone par Jess Smith, là. Bone a une influence énorme sur la BD jeunesse. Ça a commencé comme dans l'underground.
Ouais, c'était pas supposé être une BD jeunesse Bone en plus, là. Ils l'ont plus, je pense que c'est scolastique, ils l'ont mis en marché plus jeunesse maintenant, mais à la base, c'était pas pour les jeunes du tout.
Puis, là, je veux dire, en même temps qu'ils copiaient Bilbo de Hobbit, que c'était pour les jeunes, de façon... tu sais, on pourrait dire que ça l'était. Fait que c'est un peu le même mood.
Okay, ça, je savais pas. Mais
c'est l'inspiration. Ouais. L'inspiration, c'est Bilbo, genre.
Ah, oh, c'est cute. C'est pour ça que j'aime ça.
Mais tu sais, c'est... Tout ce qui est alternatif finit par avoir une très forte influence sur ce qui est créé. C'est un peu comme quand le manga a commencé, puis que les éditeurs... européens et les éditeurs américains étaient comme « c'est quoi ça? » Mais tu sais, il faut porter attention à ces changements-là, parce que c'est souvent ça qui va engager.
C'est le futur plus tard, là. Ouais, ouais. Mm-hmm.
C'est le futur plus tard, fait qu'il faut vraiment de l'énergie à comprendre ce qui est créé.
Hey, merci beaucoup de nous avoir expliqué un petit peu ce que tu fais. C'est super intéressant.
De rien.
On était deux animatrices, mais on avait un troisième animateur qui est le chien. Vous l'avez sans doute entendu tout au long de l'épisode, les petits bruits de respiration comme là en ce moment. Je suis désolée, habituellement, il n'est pas aussi bruyant, mon chien, mais là, ça y tentait. Ce soir, il était un petit peu énervé.
Il y avait des opinions.
Oui, il était pas d'accord avec nous autres. Il voulait s'exclaffer là-dessus.
Comment osez-vous?
Oui. Donc, c'est ça. Hey, écoute, on termine l'épisode maintenant. Isabelle, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets?
OK, alors, je suis sur Twitter, Tumblr, en général, Instagram aussi. Sur les trois, je suis Second Lina, donc j'imagine que tu peux mettre un lien direct pour
oui,
ça.
Oui, exactement, je vais faire ça.
Puis bien sûr, je travaille à Hiveworks, donc j'encourage tout le monde à venir visiter le site web de Hiveworks. Je travaille également à Slipshine, que c'est un peu comme Hiveworks, mais c'est pour des BD érotiques, mm-hmm. qui sont excellentes d'ailleurs, et écrites par beaucoup de femmes, donc c'est vraiment chouette aussi.
Ouais, je pense qu'on avait déjà parlé là, très très longtemps de Slipshine au Geekette, mais on fait beaucoup ça au Geekette, parler de BD érotiques.
Fait que tu parlais carrément de où je travaillais, puis tu m'as même pas invité.
Ouais, j'ai fait ça, moi, ouais. Oui, mais t'habitais pas à Montréal dans le temps. Boum!
Alors, je revienne pour une reprise, quoi.
Oui, il va falloir qu'on parle de ça. Et puis, écoutez, nous autres, les geekettes, toutes nous autres, les geekettes, pour le show, vous pouvez nous retrouver sur geekettes.ca. Vous allez retrouver tous nos liens vers les autres épisodes qui nous sommes. Plus d'informations, on est également sur Facebook, sur Twitter, mais un petit peu moins sur Twitter en ce moment. On est un petit peu sur Instagram aussi. Donc, suivez-nous. Je vais peut-être prendre une photo du chien avec le micro. Ça serait super cute. hey, passez une bonne semaine, journée, peu importe où que vous soyez. Bye bye!
Bye!